Le général de Gaulle. Peu de figures ont autant marqué l'histoire de France. Chef de la France libre, symbole de la résistance, fondateur de la 5ème République, son nom est devenu bien plus qu'un simple personnage historique. De ce fait, porter une telle légende à l'écran est un exercice particulièrement risqué. Suffit de voir ce qu'a fait Ridley Scott avec Napoléon. Je m'en remets toujours pas. Je suis donc allé voir la bataille de Gaulle, l'âge de fer, premier volet d'un diptyque réalisé par Antoine Baudry, qui ambitionne de raconter l'une des périodes les plus décisives de la vie du général, les journées de 40, lorsque tout semble perdu pour la France et que commence l'aventure de la France libre. Mais une question se pose immédiatement, est-ce que le film est à la hauteur de son sujet? Peut-on espérer une grande fresque historique française, ambitieuse, épique, portée par le souffle des événements qui ont changé le destin de tout un pays? Ou alors faut-il s'attendre à un biopic classique, lent, parfois figé, qui peine à donner vie et corps à son personnage principal? Et surtout, au-delà de la qualité du film, est-ce que la bataille de Gaulle réussit à rendre hommage à l'homme derrière la légende? C'est ce que nous allons voir ensemble. La bataille de Gaulle, donc, partie 1, l'âge de fer, réalisé par Antoine Baudry, réalisateur aussi notamment du Chant du Loup. C'est, comme je l'ai dit, le premier volet d'un diptyque ambitieux qui débute par la débâcle de juin 40 avec de Gaulle en colonel des blindés et qui s'étend jusqu'à l'entrée en guerre des Américains 1942 en gros. J'ai trouvé l'idée d'un diptyque très pertinente parce que ce serait un exercice très risqué de condenser la vie et l'œuvre du général de Gaulle en un seul film. J'aurais aimé un Napoléon en diptyque aussi, voire en saga type Le Seigneur des Anneaux. France 2 l'avait fait, hein, la série avec Christian Clavier en 4 épisodes, et c'était très réussi. Ah, un jour, mon rêve, ce serait de réaliser une saga sur Napoléon. Le rêve ultime. Bref, pour revenir à de Gaulle, que nous dit cette partie 1, l'âge de fer? Si vous aimez la France libre et ses valeurs, alors sachez que Kalos, le partenaire de cette vidéo, a un petit quelque chose qui pourrait vous intéresser. Petit quelque chose, c'est ni plus ni moins que leur gamme France Libre, comprenant le collier avec la croix de Lorraine et aussi cette magnifique chevalière lourde de symboles. Avouez qu'il n'y avait pas meilleur partenaire pour cette vidéo. Au-delà de ça, sachez qu'ils ont également d'autres bijoux sur d'autres thèmes marquants de notre histoire, Napoléon, Jeanne d'Arc, la monarchie française ou encore nos racines chrétiennes. En plus de ça, ils viennent de sortir une gamme de tableaux absolument magnifiques. Moi, j'ai pris celui-là parce que c'est tout simplement mon dessin préféré de l'artiste Job. On y voit le jeune Bonaparte étudiant à Brienne et puis l'ombre qu'il projette sur la carte de l'Europe qui est celle du futur Napoléon. C'est tout simplement magnifique. Allez voir sur le site, il y en a vraiment beaucoup et pour tous les goûts. Bref, si la gamme France Libre, particulièrement dans le thème, vous intéresse ou d'autres produits, rendez-vous sur le lien en description pour découvrir l'ensemble de leur catalogue. Et avec mon code LAN10, vous aurez 10% de réduction sur votre commande. Allez, on continue. La bataille de Gaulle, partie 1, donc l'âge de fer, ça donne quoi? Eh bien déjà, je vais commencer par aborder la question du casting, que je trouve très bon. Benoît Magimel, qui est très charismatique en Maréchal Koenig. Mathieu Kassovitz campe un excellent Darlan, qui est un peu l'antagoniste du film. Le Maréchal Leclerc, très bien aussi. Mais le meilleur pour moi, ça reste Churchill. Alors autant l'acteur, je trouve qu'il n'est pas hyper ressemblant, même si ça passe. Mais dès qu'il ouvre la bouche, même dans sa posture, c'est Churchill, quoi. Son jeu d'acteur est excellent, impressionnant vraiment. Et bien sûr, maintenant parlons de ce qui nous intéresse le plus, de Gaulle. Il est incarné par Simon Abkarian, un acteur d'origine arménienne. Et j'avais déjà fait une vidéo sur la bande-annonce où j'émettais quelques doutes. Et bien autant vous le dire tout de suite, mes doutes n'ont pas trop été dissipés. Alors certes, il y a un truc, on va pas se mentir, et dans son jeu, il est très bon lui aussi, droit, impitoyable, têtu. Et quand il s'exprime avec ses grandes phrases monotones là, c'est de Gaulle. Mais au niveau de la ressemblance, à quelques exceptions près, je n'ai pas réussi à voir de Gaulle. Je voyais l'acteur plutôt que le général la plupart du temps. Je vous l'ai dit, il a un profil trop arménien, ce qui n'est pas un problème en soi, hein. Mais pour jouer de Gaulle, qui est l'incarnation même du français, c'est limite. C'est trop limite. Après, il joue très bien, hein, mais disons que ça passe, même si je bloque un peu. Concernant le film en lui-même maintenant. Alors, est-ce qu'on a un grand film de guerre épique ou bien un biopic académique? Eh bien, malheureusement, je l'ai davantage ressenti comme un biopic on ne peut plus classique. Si je devais le définir en un mot, chronologique. Trop chronologique. La réalisation manque de punch, elle ne prend aucun risque, elle n'insuffle aucun souffle épique. C'est chronologique, voilà, ça commence avec le général, enfin le colonel, à la tête de ses blindés lors de la bataille de Montcornet. Là, on voit du B1 bis, donc on est content. On se dit, ok, il y a du matériel, il y a des moyens. La scène est sympa, ils abattent à Panzer, bref. Ensuite, bah, il part pour Londres en avion, il arrive là-bas, puis il se pointe directement à la BBC, puis il fait son appel du 18 juin. C'est dommage parce qu'on ne comprend pas trop pourquoi ni comment il en a arrive là? Par quelle relation? Pourquoi cet inconnu débarque comme ça et est si vite pris au sérieux? En parallèle, on suit aussi la vie d'un jeune militant de la résistance. Ça permet de voir un petit aperçu de la résistance, c'est sympa. Puis viennent les échanges entre De Gaulle et Churchill. Et là, franchement, en termes d'acting, c'est les meilleurs moments. Les scènes avec Churchill sont très réussies et ils échangent en français la plupart du temps.
La France n'a pas capitulé.
Vous n'êtes pas la France!
Leur relation est aussi complice, courageuse, et franchement, au niveau du jeu d'acteur, c'est le top. Ensuite, on a la triste affaire de Mersel Kébir, où on voit la flotte, très bien reconstituée d'ailleurs, se faire couler par les Anglais. Les images de synthèse, parce que ce sont des images de synthèse, hein, sont très jolies, ça donne un côté très authentique. Hein. Sur ce plan, c'est réussi. On voit que c'est à regret que Churchill donne cet ordre de couler une partie de la flotte, parce que le fait qu'elle puisse tomber entre les mains des Allemands était trop risqué. Puis, ce sont les débuts de la France libre, avec De Gaulle qui est d'abord extrêmement seul, puis rejoint par quelques volontaires. Même là, on comprend pas bien comment il peut être pris au sérieux alors qu'il a quasiment personne avec lui. Pourtant, Churchill le considère et il persiste, et il ne doit son statut qu'à Churchill d'ailleurs. De Gaulle lance son plan un peu bancal pour reprendre l'Afrique avec quelques poignées de volontaires. Là aussi, on comprend pas, il a pas de troupes, il a rien, il envoie 2-3 mecs, et hop, t'as le Tchad qui rejoint la France libre. Ensuite, c'est le Congo, par l'intermédiaire de Leclerc, mais on comprend pas par quel moyen il a réussi à faire ça. Parce que des moyens, il en avait pas. Vient ensuite la scène de la bataille de la baie de Dakar, où les cuirassés britanniques se font attaquer par la flotte de Darlan, et De Gaulle qui hausse le ton, on ne riposte pas, on ne tire pas sur des Français. Alors, la scène est sympa. De là, sa légitimité commence davantage à être remise en question. Personne ne comprend pourquoi Churchill le garde. La baie de Dakar, ça a été un échec monumental et les Américains n'en veulent pas de ce De Gaulle. À relever ça d'ailleurs, hein, que je l'avais noté, les Américains ne sont pas du tout montrés comme les gentils héros de l'histoire, au contraire. Ils sont montrés comme hautains, opportunistes, résolument hostiles à De Gaulle et très cyniques. De Gaulle finit donc par être écarté, puis il revient, et là c'est le moment que j'attendais. La bataille de Bir Hakeim. Une poignée de Français libres dans le désert, commandée par Koenig, face à la division Panzer de Rommel. Leur but, tenir le plus longtemps possible pour que les Britanniques puissent se replier en bon ordre et contre-attaquer. Et ils vont le faire, tenir et ne jamais se rendre. La bataille est sympa, on voit les Panzers, le camp retranché, les mines, les tirs d'artillerie. Mais encore une fois, ça manque de punch. Là aussi, même pour cette bataille, c'est très chronologique, on nous la présente comme ça, jour 1, jour 2, jour 3, etc. Un peu comme dans le film Dien Bien Phu, dont j'avais déjà parlé d'ailleurs. On peut dire ce qu'on veut, mais les Américains, Hollywood, eux, ils savent filmer la guerre. Ils savent te pondre des batailles épiques à l'écran. Là, bah, disons que c'est pas trop le feu, quoi. C'est pas nul, mais... dommage. On voit qu'il y a du budget, hein, mais ça manque d'un souffle épique. Après cette résistance héroïque à Bir Hakeim, De Gaulle revient en grâce, mais pas pour longtemps. Les Américains débarquent en Afrique du Nord et ne veulent pas entendre parler de ce De Gaulle et de sa France libre. Ils n'en veulent tellement pas qu'ils lui préfèrent Darlan, le Darlan de Vichy. Heureusement, Darlan est tué par un résistant, De Gaulle revient. Il s'installe derrière le micro de la BBC, il prend son souffle, il s'apprête à redonner la parole à la France libre. Et c'est là que le film s'arrête. Voilà, comme vous l'aurez peut-être ressenti, c'est très chronologique, trop chronologique. C'est bien filmé, les effets spéciaux sont excellents, le casting est très bien, on a quelques bonnes scènes, mais c'est tout. On a l'impression que le scénario du film, c'est le livre de Julian Jackson, sur lequel il s'appuie, hein, De Gaulle, une certaine idée de la France. D'ailleurs, sur le plan de la véracité historique, j'ai rien trouvé à redire. Mais voilà, à mon grand regret, malgré quelques trucs sympas, ce n'est pas la grande fresque épique historique que j'attendais. C'est un biopic assez lent, assez long, en plus, il fait 2h40. Parfois, c'est une qualité, hein, mais là, honnêtement, il aurait pu être plus court. On s'attarde trop sur des détails sans importance, ça casse le rythme, et d'ailleurs, de rythme, il n'y en a pas. C'est pas un mauvais film, hein, je vous invite quand même à le voir. Il y a des bonnes choses, j'ai pas envie d'être trop dur avec lui. Mais c'est un biopic, tout ce qu'il y a de plus classique. Ça manque de panache, ça manque d'élan, ça manque de punch, ça manque de souffle. Pour vous dire, quand je suis allé le voir, dans la salle, il y avait que des vieux. Et ça m'a donné cette impression-là, un film pour vieux, limite documentaire de fin d'après-midi. Encore une fois, il y a de bonnes choses à en retirer, et là, le mérite d'exister. Mais j'attendais mieux d'Antoine Baudry quand même. La deuxième partie, intitulée J'écris ton nom, sort début juillet. On verra si elle redresse la barre. Parce que là, avec l'intervention américaine, j'imagine qu'il va y avoir plus de combats, plus de tensions, plus d'actions. Donc à voir notamment avec la deuxième DB du maréchal Leclerc. En tout cas, j'irai la voir et j'en espère que du bien. Merci, si vous avez vu le film, bien sûr, j'attends vos avis en commentaire. Dites-moi si vous partagez ma petite déception vis-à-vis de ce film ou si au contraire vous l'avez apprécié. Merci encore à mon partenaire Kalos, vous retrouverez leur gamme France Libre et toutes leurs autres gammes sur leur site et puis leur nouvelle collection de tableaux, le lien est en description. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.